Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors, les élections européennes se rapprochent. Pour chacun d'entre nous, il y a des enjeux spécifiques ou prioritaires. La paix en Ukraine, la démocratie, la justice sociale, la construction d'une Europe plus unie. Pour nous n'avons qu'une terre, l'important est de poursuivre la protection de l'environnement qui fut toujours un des objectifs de l'Europe. Alors, face à la responsabilité du réchauffement climatique, hein, qui est attribuée aux deux puissances industrielles que sont l'Europe et les États-Unis, qui ont bâti leur richesse à partir des énergies fossiles, le charbon et le pétrole, et puis maintenant de nouveaux émergents, fut adopté un plan qui ferait de l'Europe le premier continent climatiquement neutre. Nous étions en 2019, et ce plan fut appelé le Pacte vert pour l'Europe, ou en anglais, que vous entendez plus souvent, l'European Green Deal. Et c'est la présidente de la Commission européenne qui présenta ce plan de réduction d'au moins 50% à l'horizon 2030, et ensuite vers 55% des niveaux aussi, pour que 2030 par rapport au niveau de 1990 nous conduise en Europe climatiquement neutre en 2050. Mais pour la première fois, et c'est là que c'est important, et c'est là qu'on a effectivement une image de ce qu'est le Green Deal, pour la première fois, les lois sont pensées dans leur interaction, et non plus en silos. Le transport, l'hébergement, le logement, la santé, l'agriculture, etc. Une énorme mobilisation va s'en suivre. D'une part, il faut transformer, remettre aux nouvelles normes, réviser certaines politiques, comme la directive sur les taxations de l'énergie, les exonérations fiscales, les quotas d'émissions, par exemple. Mais d'autre part, travailler, créer de nouvelles directives pour embrasser de nouveaux enjeux, comme l'économie circulaire, la rénovation des bâtiments, la biodiversité, l'agriculture et l'innovation. Globalement, on pourrait dire que l'industrie est au rendez-vous, bien sûr, en bouleversant des temporalités, en essayant parfois de gagner du temps, alors qu'il y a une urgence. Mais c'est l'agriculture qui, la première, va rompre le contrat et peser lourd sur l'avenir du pacte vert, avec une importante mobilisation en février-mars de cette année qui va toucher l'Europe, refusant la réduction des pesticides, des engrais, la mise en jachère censée reposer les sols. Et derrière ces refus, toute une politique de production et de commercialisation se trouve mise en jeu, et bien sûr, ce sera au nouveau Parlement européen d'en décider. Donc, à vous de voter pour votre avenir. Alors, Brice Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ministre de l'Environnement, homme politique. Vous vous êtes beaucoup occupé de l'environnement, mais vous, si vous êtes notre invité aujourd'hui, après ce rappel des enjeux européens et de l'importance du Green Deal, c'est que très vite, vous avez créé le lien entre environnement et développement. Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, vous n'avez cessé d'œuvrer en ce sens. Moins de carbone sera aussi gage d'un meilleur développement. Et à partir de 2011, le climat est devenu votre combat, l'urgence absolue, direz-vous. Alors, vous prenez de plus en plus de responsabilités internationales, le Pacte mondial pour le climat, ambassadeur, sous-secrétaire général de l'ONU, et aujourd'hui, président de l'association Équilibre des énergies. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est EDEN, c'est-à-dire cette association Équilibre des énergies.
Oui, beaucoup. Merci de votre invitation. Équilibre des énergies est une association qui est un laboratoire de pensée, comme on dit en anglais, un think tank. C'est une association qui est essentiellement composée d'entreprises, des entreprises du bâtiment et des travaux publics, des entreprises des transports, de la mobilité, depuis le train jusqu'à l'automobile et également l'aviation, et puis des entreprises de l'énergie, électricité comme EDF, Total Energy, etc. Et toutes ces entreprises nous envoient leurs ingénieurs pour qu'on puisse travailler à la décarbonation. Comment décarboner? Comment lutter contre le changement climatique? Comment est-ce que les entreprises peuvent et doivent aller plus vite et aider les pouvoirs publics à la décarbonation, à la lutte contre le changement climatique?
Alors, vous avez été donc ministre de l'Environnement, puis ensuite, vous avez travaillé pour l'Organisation des Nations Unies. Donc, on était en fait un petit peu quand même dans une espèce de politique publique, quoi, vous travaillez. Alors, aujourd'hui, équilibre des énergies, pardon, reste quelque chose de public, privé, c'est comment? Comment ça se situe?
Alors, c'est évidemment privé au sens où il s'agit d'une association, quoi. Mais nous travaillons pour le bien public. Hein. Au fond, l'accord de Paris de 2021, c'est un accord par lequel tous les pays s'engagent à lutter contre le changement climatique. Il n'y a pas de grand programme mondial, mais il y a 130 ou 190 programmes nationaux. Donc, le plus urgent, à mon avis, à ce moment-là, c'est comment est-ce que dans mon pays, dans notre pays, la France, et au sein de l'Union européenne, comment est-ce qu'on peut aller plus vite dans la décarbonation? Comment est-ce qu'on peut faire notre part du travail? Donc, c'est ça l'idée. Je passe beaucoup de temps, et nous passons beaucoup de temps dans notre équipe, à discuter avec le gouvernement, avec la Commission européenne, avec les parlementaires, pour leur dire, voilà ce que nous suggérons pour aller plus vite, pour être plus efficace.
Alors, vous avez été sans doute quelqu'un qui... À l'époque, c'était il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, avait bien sûr épousé le message public. Puis vous avez été un des premiers également à vous apercevoir qu'on ne pouvait pas faire de politique publique sans y associer les entreprises. Ça a commencé finalement par votre travail sur les voitures.
Oui, ça avait même commencé par la protection de la couche d'ozone. À l'époque, c'était donc dans les années 80, 88, par là, on y a eu le premier accord mondial sur l'environnement qui était la protection de la couche d'ozone. Et il fallait ensuite convaincre toutes les entreprises de remplacer les gaz qu'ils avaient dans les propulseurs pour les petits aérosols, pour des choses de ce genre-là, pour les remplacer par des gaz qui ne détruisent pas la couche d'ozone. Donc il fallait discuter avec les entreprises. Et elles s'y sont mises très vite. Après tout, même quand on est dans une entreprise, on n'est pas du tout, on n'est pas là pour détruire la planète.
Donc, alors justement, quelle différence culturelle avez-vous rencontrée et en fait, j'ai presque un peu l'impression que vous avez suivi cette modification culturelle au fil des années.
Alors c'est très intéressant parce que, par exemple, lors de l'accord de Paris... nous avions organisé quelque chose qui s'appelait le Business and Climate Summit, le sommet des entreprises pour le climat. Et le message, c'était qu'il fallait mettre un prix sur le carbone. Il fallait que le carbone, que l'externalité, comme on disait en économie, soit payante. Il faut mettre une amende à ceux qui envoient du carbone dans l'air. Donc c'était le prix du carbone. Et ensuite, nous avons essayé de délocaliser, de nous promener un petit peu partout dans le monde. Et nous sommes allés en Inde. Et lorsque le message des patrons français, c'était les patrons français qui disaient qu'il fallait mettre un prix au carbone, ils ont expliqué ça aux patrons indiens, les patrons indiens pensaient qu'ils étaient devenus fous. Et donc, la bataille culturelle, elle était bien là. Pour les entreprises indiennes, il fallait surtout pas se charger d'avoir une amende ou quelque chose à prix du carbone, il fallait être le plus compétitif possible et ne pas s'occuper du climat. Et donc, on voyait tout de suite là la bataille culturelle.
Donc cette bataille culturelle, vous vous en êtes rendu très vite compte et c'est pour ça qu'au sein de l'ONU, vous avez été un de ceux qui ont essayé de travailler entre cette dimension, finalement ce qu'on appelait le Sud, les pays en développement et puis le Nord. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, C'est peut-être pas seulement une question de loi.
Alors c'est aussi en effet une question de justice sociale. C'est très compliqué, on le voit bien aujourd'hui. Un pays comme la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de manière assez importante l'année dernière. Hein. 4%, c'est mieux que d'habitude. Hein. Donc ça veut dire que ça peut s'accélérer en France. La plupart des pays développés également, les émissions se réduisent ou doucement, ou il y a un plateau, si vous voulez. En revanche, c'est dans les pays en développement, c'est en Chine, c'est en Inde, c'est ailleurs, que les émissions augmentent. Parce que ces pays disent, mais excusez-moi, mais c'est pas moi qui suis responsable, ou c'est pas moi qui l'ai été, mais laissez-moi me développer d'abord et on verra ensuite.
Alors donc, effectivement, quand on a préparé cette émission, vous m'avez fait remarquer que je parlais finalement on en parle depuis les années 92, des deux pays qui étaient responsables des émissions, ce que le GIEC rend responsable des émissions parce qu'ils ont été les premiers à construire leur richesse à partir du charbon et du clé et du pétrole, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Et vous m'avez dit, oui, mais et aujourd'hui, il y a la Chine. Oui, sauf que quand on a fait les conventions climat, la Chine est encore un pays en développement.
C'est exact. Et la
Donc, il y a des choses qui ont changé.
Et la Chine ne se prive pas de dire que le problème, c'est la concentration. Donc, c'est le fait que depuis 1800, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, ceux qui avaient commencé à envoyer des gaz à l'époque sont aussi responsables, sinon plus, que ceux qui commencent uniquement maintenant. Mais la grande différence, quand même, c'est qu'à l'époque, nos ancêtres, nos aïeux, ne savaient pas, ne connaissaient pas le changement climatique, et ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de faire, de détruire l'équilibre de la planète. Et aujourd'hui, en revanche, les pays en développement, ils savent très bien qu'il y a le changement climatique, donc ils connaissent leurs propres responsabilités. Donc, si vous voulez, de la discussion maintenant, il commence à y avoir un équilibre. Tout le monde se rend compte, et c'est d'ailleurs depuis l'accord de Paris, tout le monde se rend compte que tout le monde doit faire quelque chose. Mais ça, c'est nouveau.
Et alors, est-ce que réellement, vous avez l'impression que les choses avancent?
Oui. Alors, j'ai l'impression que les choses avancent. Alors, si vous voulez, il y a des mauvaises
nouvelles. Mais ça, vous n'êtes pas nombreux à le penser.
Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelques jours, sur l'observatoire de Hawaï, on voit bien que la concentration de CO2 n'a pas cessé d'augmenter. L'accélération est même plus rapide que l'année dernière, donc ça monte trop vite. En revanche, quand vous voyez de l'autre côté des pays, même comme la Chine, alors la Chine envoie encore beaucoup de gaz à effet de serre, mais quand vous voyez son programme d'énergie solaire, c'est absolument impressionnant. Vous voyez des collines entières, des paysages entiers couverts de panneaux photovoltaïques. Donc, si vous voulez, on se
rend compte... Oui, mais enfin, ils ont de la place.
Ah, ils ont de la place, mais ils prennent ça très au sérieux. Que toute la côte sur l'océan Pacifique est quand même sujet aux tornades. Shanghai est très vulnérable. Et en plus, Shanghai s'enfonce parce que le niveau de la mer monte aussi, etc. Donc, tous ces pays se rendent bien compte que c'est vrai. Regardez un pays comme l'Indonésie qui envoie beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre, qui se développe très vite et qui utilise du charbon, et sont obligés de déplacer leur capitale Jakarta parce qu'elle est sous l'eau déjà.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement il y a plus à agir du côté des pays en développement qui sont en train de se développer qu'à essayer de réduire nos gaz à effet de serre qui sont déjà très très importants?
Alors c'est en partie vrai, bien sûr, c'est en partie vrai seulement, parce qu'évidemment il faut aussi quand même que nous montrions l'exemple, puisque nous avons été responsables du début du réchauffement climatique. Mais c'est vrai que là où il n'y a pas grand-chose de fait, nos dépenses, l'argent dépensé pour lutter contre le changement climatique est beaucoup plus efficace dans des pays qui commencent seulement à le faire. Et puis en plus de ça, c'est l'exemple célèbre qui est donné du téléphone portable par rapport au téléphone avec des fils et un réseau de fils électriques. Quand on saute directement au téléphone portable, eh ben, ça coûte moins cher et c'est plus efficace puisqu'on n'a pas besoin de passer par l'étape des fils, etc. Donc le progrès des techniques permet tout de suite de sauter plus vite dans la lutte contre le changement climatique.
Alors, on avait un espoir, justement, c'est que le meilleur de l'avenir soit immédiatement pris en charge par les pays qui étaient en train de se développer. Bon, c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'il y a des entreprises du style de Total à Équilibre des énergies ?
Oui, il y a même Total. Total Énergie est membre de l'Équilibre des énergies. Et c'est intéressant parce qu'une entreprise comme Total, d'un côté, elle produit toujours du gaz, hein, plus de gaz plus que du pétrole, hein, c'est du gaz surtout. Mais de l'autre côté, c'est un des deuxièmes producteurs du monde de panneaux solaires. C'est une société qui va chercher à capturer le carbone et à l'enterrer enfin, sous la mer, etc. Donc il y a beaucoup de choses, si vous voulez. C'est une société qui produit des batteries. Donc cette société, elle marche sur deux pieds. D'un côté, elle contribue au changement climatique. De l'autre, elle contribue à lutter contre le changement climatique. Et donc, évidemment, nous travaillons plutôt sur le deuxième pied.
Oui, mais enfin, et est-ce que vous croyez qu'on peut quand même agir sur le premier encore beaucoup ? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Parce que ce qui nous appelle, nous ici, bien sûr, quand on parle des pays en développement, je suis d'accord avec vous pour dire qu'on peut travailler sur le deuxième pied. Mais quand on est en France, qu'est-ce qu'on peut faire encore ?
Alors, c'est très, très compliqué parce que si on dit on arrête totalement d'aller chercher du pétrole et du gaz, vous allez avoir des manifestations d'automobilistes tout de suite aux pompes. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est comment est-ce qu'on passe d'un système à un autre. Alors, en ce moment, ça se passe grâce aux véhicules électriques. Qu'on le veuille ou non, la marche vers le véhicule électrique est irrésistible. On sera bien obligé d'y passer par là. Et du coup, évidemment...
Il est largement aidé.
Évidemment que c'est aidé, mais c'est pas, pourquoi c'est aidé ? C'est aidé parce que les véhicules électriques, pour l'instant, sont trop chers. Ils sont plus chers que les véhicules thermiques. C'est plus compliqué, en plus. Il faut charger, ça prend du temps. C'est toute une histoire complètement nouvelle. C'est comme les pompes à chaleur qui doivent remplacer les chaudières à gaz. Bon, tout ça, c'est difficile. Donc, il faut que ce soit aidé. Il faut qu'il y ait tout un plan. Et il ne faut pas que ceux qui sont les moins bien lotis soient défavorisés. Donc, il y a là aussi un élément de justice qui est très, très important. Et on voit bien qu'en ce moment, il commence à y avoir des inquiétudes. Vous avez dit que les agriculteurs commençaient à rouspéter. Il y en a d'autres qui disent « Oh là là, ça va trop vite pour les véhicules électriques, on n'y arrivera pas. Les chaudières à gaz, on va continuer encore pendant longtemps parce que c'est compliqué de les remplacer par des pompes à chaleur, etc. » Donc, c'est vrai qu'il y a une bataille, quoi.
Alors, justement, quelle position vous avez par rapport à ce qui peut se passer ? C'est-à-dire que, effectivement, tout ce que vous venez d'évoquer, bon, c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure en ce qui concerne la prise de position quand, en 2019, on a adopté le Green Deal. Bon, entre-temps, on dit le monde a changé, etc. Et donc, on revient sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, bien sûr, on a vu que ça allait changer des choses dans notre mode de vie quotidien. Et subitement, ça n'était plus abstrait, ça devenait une obligation concrète, ce Green Deal. Donc, est-ce que on peut le remettre en question ? Est-ce qu'on attend qu'il soit au contraire porté ? Il va falloir beaucoup de courage. Ça devient de plus en plus difficile.
Mais oui, absolument. Mais il n'y a rien sans bataille. Donc c'est une bataille contre les conservatismes, c'est une bataille contre les intérêts acquis, mais c'est une bataille qui doit être menée intelligemment, si je puis dire. C'est pas la peine non plus de fixer des objectifs inatteignables, parce que si on fixe des objectifs inatteignables, après on est déçu et plus personne ne croit à rien.
Donc vous pensez que le 2050 zéro pollution, c'est un peu un objectif inatteignable ?
Alors, l'accord de Paris dit que ça doit être avant la fin du siècle. Alors nous, en Europe, on a dit 2050, allez. Donc, si vous voulez, que ce soit à 10 ans près, c'est quand même pas ça le problème, enfin, pour l'instant. Donc, essayons de travailler. La seule chose, la grande découverte, c'est que la décarbonation, la lutte contre le changement climatique, ça implique un énorme effort d'investissement. Vous avez dit que ce serait difficile. C'est difficile pour chacun d'entre nous, puisqu'on nous demande d'isoler nos maisons, de changer notre système de chauffage, on nous demande d'acheter des voitures différentes. Pendant ce temps-là, l'État est obligé aussi d'aider les usines de batterie, d'aller chercher des métaux, du lithium, du cobalt, du nickel, etc. Tout ça, tout le monde a un énorme effort à faire. Il faut construire des panneaux photovoltaïques, alors que pour l'instant, ce sont les Chinois qui sont les meilleurs pour ça. Il faut construire des réseaux de lignes électriques parce qu'il faut relier tout ça au réseau, il faut construire des centrales nucléaires. Enfin, tout ça, c'est un énorme effort où chacun a en effet un effort pour à la fois transformer le système énergétique, passer à l'électricité ou à la chaleur renouvelable, et puis transformer nos usages, la façon dont on utilise l'énergie chez nous. Donc oui, c'est une transformation extrêmement profonde, avec en même temps des risques de guerre. La guerre, c'est quand même pas la meilleure chose à faire si on veut lutter contre le changement climatique. Il vaut mieux qu'il y ait une coopération mondiale, etc. Donc on est confronté à des difficultés qu'il faut surmonter.
Très bien. Et donc, vous avez au sein d'Équilibre des énergies, finalement, c'est de tout cela dont vous discutez.
Nous discutons de tout cela. Comment est-ce qu'on peut changer le système d'énergie des maisons? Comment est-ce qu'on peut contribuer à l'électrification des véhicules? Il faudrait que les véhicules soient plus légers. Ce n'est pas la peine de faire des modèles haut de gamme parce que ça ne sert pas à grand-chose. Comment est-ce qu'on fait pour changer le système électrique, le système énergétique? Le grand problème, c'est quoi? Il faut se passer du fossile. Il faut se passer de pétrole, de gaz et de charbon. Alors, regardons systématiquement tous les endroits où on se sert de cette source d'énergie et regardons comment on peut la remplacer.
Alors, avant d'en arriver à ça, puisque de toute façon, on vient de voir qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une obligation de réduction, essayons de voir, la semaine dernière, par exemple, suite aux grands événements qui se sont déroulés, on est entré dans le dérèglement climatique, on a aujourd'hui des événements extrêmes, aussi bien en termes de pluie qu'en termes de vent, qu'en termes même de tornades sur des régions du Nord qu'on ne connaissait pas. Donc, on voyait qu'était mis en question finalement le réseau de transfert de l'énergie. Alors, déjà, ce n'était pas simple. Déjà, on ne savait pas comment on allait transférer l'énergie de l'éolien pour le brancher à terre, pour ensuite le diffuser. Et aujourd'hui, on se trouve avec un problème supplémentaire qui est celui, finalement, de l'attaque des réseaux par les événements climatiques. Alors, est-ce que cette question des réseaux vous occupe fortement ?
Évidemment que ça nous occupe fortement. D'abord, ça coûte très cher, les réseaux. Les réseaux, ça coûte aussi cher que les centrales, si je puis dire. Et donc, ça a été quelque chose qui avait été un peu oublié, notamment oublié par l'Europe. Et tout d'un coup, on se rend compte en catastrophe, oulala, mais il faut aussi qu'il y ait un énorme programme d'investissement pour les réseaux. Et puis, ces réseaux, en effet, à la moindre, si je puis dire, tornade, ces réseaux, ils sont foutus en l'air. Donc, il faut les remplacer. Et la question, si vous voulez, se double d'une autre question à laquelle aussi on n'avait pas vraiment beaucoup pensé dans le temps, qui est la question de l'eau. Il faut de l'eau partout. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de centrale, vous n'avez pas de vie.
Vous n'avez pas d'hydrogène.
Alors, il n'y aura pas d'hydrogène, en tous les cas, vert. Il n'y a pas d'hydrogène vert. En effet, il faut de l'eau. Il faut de l'électricité et de l'eau, etc. Et donc, en ce moment, vous pouvez aller discuter avec des entreprises comme EDF. La question de savoir où ils vont localiser leur centrale, c'est si vous imaginez à la fin du siècle une montée de la mer d'un mètre, prenons une précaution supplémentaire, prenons 2 mètres, et alors cherchons les lieux où on est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer pour qu'on soit sûr que dans une 60aine d'années, les choses soient toujours à peu près convenables. Même chose pour les routes d'accès. Et comment fait-on pour refroidir l'eau? Il faut planter le long des fleuves et des cours d'eau, planter des arbres, etc. Tout ça, ça entre maintenant dans le cadre de la réflexion normale, quotidienne de ces entreprises. Il faut voir ce que c'est.
Et vous avez, exemple, vous qui les côtoyez, vous croyez qu'elles sont équipées pour répondre à toutes ces questions? C'est-à-dire que longtemps, elles ont fait preuve de déni. Longtemps, elles ont refusé d'entendre ce discours. Est-ce que vous qui les voyez quotidiennement, est-ce qu'aujourd'hui, elles sont dans ce défi? Et est-ce que nous, du côté du grand public, disons il y a urgence, on voit se développer de l'éco-anxiété, etc. Est-ce que vous aviez l'impression que vous, le problème est vraiment pris en compte?
Alors, je ne connais pas il y a beaucoup d'entreprises, je ne connais pas le monde entier. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de difficultés. par exemple, à changer leur mode de chauffage de l'eau. Hein. J'ai discuté avec l'entreprise Enaf en Bretagne. Ils ont besoin d'avoir de l'eau chaude pour l'instant pour remplacer le système du propane qui vient avec un camion pour chauffer l'eau. Ils ont du mal parce qu'ils n'arrivent pas à investir. C'est difficile, etc. Donc les entreprises, oui, elles commencent, en tous les cas en France, de plus en plus. Ça devient vraiment une question quotidienne. Peut-être que dans d'autres pays, un peu moins. Mais regardez ce qui vient de se passer au Brésil. Au Brésil, à Porto Alegre, vous avez quand même maintenant 500 000 de réfugiés climatiques. Ça fait un demi-million de gens qui sont obligés de se déplacer. Donc, si vous voulez, ça va de plus en plus vite. Et ça tombe sur la tête, si vous voulez, des responsables, des entreprises. Des entreprises, comme j'en connais certaines, qui avaient des entrepôts le long du fleuve Indus au Pakistan. Tout ça, ça a été balayé par une inondation. Donc, ils sont obligés d'aller chercher d'autres endroits pour mettre leurs entrepôts. Oui, c'est maintenant devenu quelque chose de très, très présent.
Alors, malheureusement, il nous reste 4-5 minutes. On n'aura pas le temps de parler du stockage du carbone. On aura l'occasion d'y revenir. Mais essayons de voir ensemble. Je vois que vous restez très proche du terrain. Et c'est quelque chose qui est, malheureusement, on a un peu l'impression aujourd'hui qu'on était local, on est devenu global, on retourne au local. Et finalement, vous, qui êtes vraiment quelqu'un de formé à ces deux notions, est-ce que vous avez l'impression qu'on fonctionne bien?
Est-ce qu'on fonctionne pas vraiment encore tout à fait, non? Il y a encore, d'ailleurs, il y a une bataille en ce moment. Et cette bataille, on le voit bien dans les entreprises, avec ce qui se passe aux États-Unis, où en France, on est tous d'accord pour la responsabilité sociale des entreprises, pour le reporting extra-financier, qu'est-ce que vous avez fait de bien pour
la société. Et tout ça, c'est abstrait.
Oui, non, pas du tout abstrait, parce que les entreprises, il y a une directive, il faut remplir les papiers, etc. Mais vous avez aux États-Unis Trump et les Républicains qui ne veulent plus entendre parler de ça, qui disent non, l'entreprise, son seul job, c'est de gagner de l'argent, le reste, on s'en fout, etc. Donc, cette bataille-là, dont à la limite, dont on a parlé encore au début de notre conversation, cette bataille est de plus en plus présente, de plus en plus forte. Ah, nous embêtez pas avec le climat, avec l'écologie, nous embêtez pas avec ça. Nous, on est là pour la performance économique, pour la rentabilité, pour la compétitivité, etc. Donc, cette bataille-là n'est pas terminée. Et donc, il y a des gens qui nous disent, écoutez, on verra après, parce que pour l'instant, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent, puis comme ça, on peut investir, etc. Tout le monde a sa petite part de vérité dans tout ça. C'est évident que vous ne pouvez pas lutter contre le changement climatique avec des entreprises en faillite, hein, c'est clair aussi.
Bon, alors on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur tout ça. Merci Brice Lalonde.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.